Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
Merci beaucoup pour l'accueil. On est chez toi.
Bienvenue.
Merci beaucoup pour l'accueil et pour ton temps, le temps que tu nous accordes pour cette interview.
Merci.
Et je vais commencer un peu comme je le fais avec tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites, comme tu veux? Et après, on reviendra peut-être à certains.
Si je peux me présenter en partant de mon identité un peu sociale, donc je suis casablancais, d'origine berbère, mes parents sont berbères. J'ai grandi dans un quartier populaire. J'ai été militant à un moment, entre les années 74, 72, jusqu'à 82, 81. Militant au sens vraiment intellectuel, pas au sens organisationnel, etc. Puis à l'étape de la faculté, donc j'ai fait Sciences Po, mais c'était du droit public. Il y avait très peu de matières de sciences sociales ou de sciences politiques. Donc c'était beaucoup le droit public. Je ne sais pas comment on est passé aux sciences sociales, parce que bon, nous avions le même contexte avec d'autres étudiants, Bruno Etienne et d'autres, Paul Pascon, mais bon, nous, on a choisi les sciences sociales. Et c'est ce carrefour qui m'intéresse le plus en tant qu'académicien. Donc, j'ai commencé par me définir comme juriste de formation, anthropologue de conversion, sociologue de conversion au départ, pas anthropologue, parce qu'anthropologue, c'est encore loin. C'était le plus proche, donc j'ai gardé ma carte visite et un sociologue. Donc la carte visite anthropologue viendra après. Donc c'était sociologue, et pour être honnête, bon, au départ, on était beaucoup plus proche de la sociologie. Donc c'est à partir de ma thèse de doctorat sur le sacrifice, où je vais vraiment insister sur ma dimension, sur la dimension de identitaire anthropologique. Donc voilà, il y a... En gros, peut-être dans toute ma carrière, 5 grands carrefours, 5 junctions, où il y avait plusieurs routes à suivre, et puis on a choisi une. Et maintenant, je suis à la retraite, je suis parti à la retraite depuis cette année, mais j'enseigne toujours, et j'écris toujours, donc je n'ai pas d'autre chose. Donc anthropologue. Sur le plan académique, casablancais, identité, etc. Et puis marocain par la suite, etc. Ouais. On peut rajouter plusieurs qualificatifs. Ça dépend de qui avait... Maintenant, parce que vous êtes tunisien, je dis marocain. Mais je ne l'aurais pas dit si vous étiez marocain. J'aurais tué la chose.
Je suis marocain.
D'accord.
J'ai aucun problème avec ça.
D'accord. Non, c'est une question d'altérité. C'est ton identité, elle est définie également par l'autre.
Pas surtout par l'autre, non.
Bon, c'est une interaction. D'accord. C'est une interaction, c'est-à-dire, bon, je m'amuse toujours avec mes étudiants, je leur dis, bon, si vous rencontrez quelqu'un et il vous dit « je suis américain », pour faire un peu plaisir à notre ami américain, vous n'allez pas lui dire « je suis anthropologue ». S'il vous dit « je suis sociologue », vous n'avez pas lui dire « je suis berbère ». Donc, lui t'impose de te définir par rapport à la question qu'il a posée. Donc, c'est ça un peu la relativité de l'identité, de la présentation. Ce qui est difficile dans l'absolu. Hein.
Ouais. Très difficile. Casablancais, ce que vous venez de dire, vous êtes né où?
Je suis né au Bled.
Où ça?
C'est à 60 km au sud de Tarodan.
D'accord.
Mais vraiment le Bled, hein, c'est un petit village de une trentaine de foyers ou une quarantaine de foyers.
Sur la plaine. De parents paysans.
De parents lettrés, frais, maîtres de l'école coranique. Vous dites Meddeb en Tunisie.
Meddeb,
donc c'est à peu près ça. Mais sans fonction. Il était lettré, donc il a mémorisé le Coran. Mais il n'a pas choisi ce métier. C'est comme il y a le populaire et le savant dans mon éducation. J'exagère un peu, mais bon, mon père également, il y a un côté berbère, etc., qui nous a transmis. Mais c'était assez secondaire. C'était assez secondaire. Donc voilà en gros, hein, pour ne pas.
Combien de frères et sœurs?
Ah là, c'est moi, je suis l'aîné. Il y a mon frère Abdelrahman Rachir qui est connu, c'est un sociologue, donc il est également connu. Là. C'est mon frère Puiné, et puis j'ai 5 frères et 3 sœurs.
Et vous avez grandi ensemble, ou certains sont partis avant?
Non, on a grandi ensemble, je suis le premier à partir.
D'accord.
À l'âge de 28 ans. Donc un peu tard quand même.
Et avec des. Est-ce que le livre était quelque chose qui existait à la maison, ou est-ce que vous avez découvert?
Oui, beaucoup. Le livre, comme j'ai dit, bon, mon père est lettré, donc il avait des livres en arabe sur la grammaire en arabe, sur le fiqh, etc. Je me rappelle de Moutalat Qurtub. Moutalat Qurtub, c'est un peu. Vous avez des mots qui ont la même racine, mais ils ne sont pas vocalisés de la même manière. Comme birron, borron, barron. Vous avez, c'est versifié, et ils te disent, c'est quoi birron, c'est quoi borron, c'est quoi barron. Et tu as une cinquantaine de pages, et tu as les mots qu'on écrit de la même façon, mais qu'on ne vocalise pas. Et il dit, c'est quoi birron, c'est quoi birron, c'est quoi borron, etc. Ça, je l'avais, donc je le lisais, et ça me plaisait parce que, c'était une découverte du vocabulaire en arabe. J'avais 10 ans, quelque chose comme ça, 11 ans. Et puis on achetait l'Arabie. C'est la revue un peu quotidienne qui était, à l'époque, c'était bon. Pour un peu se cultiver, il n'y avait que l'Arabie, donc il n'y avait pas beaucoup de choses. C'était une revue quotidienne mensuelle, donc nous l'achetions assez régulièrement. Donc j'ai beaucoup appris il y avait des rubriques qui étaient sur la physique, etc., ça passait pas. Mais bon, il y a Taraïf Arabi, il y a des choses comme ça, qui correspondaient à mon âge. Oui, il y avait Elf Lila ou Lila, il y avait Mille et Une Nuits. Il y avait pas une bibliothèque à la moderne.
Mais il y avait des livres. Et de la lecture.
Non, j'étais familiarisé à la lecture grâce à mon père. Ça, je l'ai dit, je l'ai écrit, donc il n'y a pas de...
L'école primaire, c'était où?
L'école primaire, avant l'école primaire, il y avait comment on appelle ça, l'école...
coranique?
Non, pas l'école, il y avait l'école coranique, il y avait j'ai oublié. C'est avant le primaire, maternelle, quelque chose comme ça. Donc, on ne l'appelait pas maternelle à l'époque. C'était madrasa, mais bon. J'avais 4 ans, donc c'était pas courant à l'époque. Déjà, la scolarisation n'était pas quelque chose d'habituel au début des années 60. Moi, je suis né en 1954, donc j'étais scolarisé à l'âge de 4 ans, donc 1958, quelque chose comme ça. Et donc, moi, au départ, et puis mon frère par la suite, donc j'ai passé peut-être 2 ans et demi avant d'intégrer l'école publique.
D'accord.
Intégrer l'école publique, c'est-à-dire que j'avais un petit bagage, en arabe et en français. J'avais tellement de bagages que lorsque j'étais inscrit au primaire, la classe élémentaire, Tahdere, l'instituteur nous a identifiés, moi et 2 autres élèves, il nous a passé un petit test, il nous a dit, vous passez directement au CE3. Donc on a gagné 2 ans.
Wow.
grâce à mon père, j'ai gagné 2 ans. Donc il nous a passé quelque chose comme l'addition, la multiplication, comme on appelle ça en français, on va dire analyse, mais on analyse d'une phrase, donc on analyse une petite phrase, etc. Et puis bon, il nous a dit, bon, allez-y, vous pouvez aller au CE3, classe élémentaire 3, puis il y a quelque chose comme ça.
Et vous n'avez pas eu particulièrement de difficultés, effectivement, à ce niveau-là?
Non.
Bien préparé.
Ah oui. Assez bien préparé, oui.
À quel moment les parents s'installent, vous aussi, à Gaza?
Ils sont passés d'abord par Rabat.
Oui.
Rabat, mon père, il a fui parce que, bon, il allait être un peu chopé ou emprisonné par les autorités locales, françaises et ceux qui, et celle qui collabore avec les Français. Donc il a fui. Il y avait un cheikh qui le connaissait, lui a dit, bon, tu n'as qu'à fuir, donc tu pars, sinon tu iras en prison. Donc il a fui.
Pourquoi il a fui?
Ben, il a fui parce que bon, il avait une activité nationaliste. Écouter la radio, c'était beaucoup à l'époque. Discuter du protectorat, c'était beaucoup. Il n'était pas dans une organisation. Et puis bon, le bruit court que mon père n'a pas égorgé, des choses comme ça pour l'Aïd Kbir, parce que Mohamed V a été exilé. Donc il y a des activités de l'époque, c'était un patriote, mais vraiment au sens très lâche du terme, sans qu'il soit organisé, sans qu'il soit militant au sens institutionnel. Et donc il a fui. Il a fui, il est parti avec ma mère. Peut-être que j'avais 2 ans, quelque chose comme ça. Donc j'avais 2 ans. Mais moi, j'ai ouvert mes yeux dans un quartier populaire, Drib Moulay Chérif, avant de venir dans le quartier Sidi Maarouf. Nous avons passé quelque chose comme 4 ans. Non, à Rabat, je me rappelle de rien.
D'accord.
Mon père serait venu à Casablanca en 1957.
D'accord.
J'avais 3 ans, donc je me rappelle de rien. Donc 58, 4 ans, je commence. Il y a quand même quelques images floues de mon enfance. On est resté 3 ans là-bas. 1960, on est parti, on a déménagé. Là où il y a toujours notre maison familiale.
La maison de la famille.
De la famille.
Qui est un peu dans le centre-ville, parce que je ne connais pas.
Pas le centre-ville, c'est un quartier populaire, Drib Sultan, un quartier post-indépendance, donc juste après l'indépendance, il a été bâti juste après l'indépendance, 58, 57, d'accord, quelque chose comme ça. C'est un quartier populaire, c'est l'extension de Drib Sultan, l'ancien Drib Sultan, l'extension.
Dans l'éducation, c'était aussi la rue avec les gamins
dans
le voisinage, non?
Moi, j'ai toujours dit, il y a 3 espaces. L'espace familial, enfin, il y a plus que 3, je vais rajouter un autre. L'espace familial, il y a l'espace scolaire et il y a l'espace du quartier. Et 3 socialisations différentes. Alors, l'école, c'est un peu, voilà, l'école nationaliste, un peu d'islam, un peu de ceci, etc. C'est connu, c'est partagé avec d'autres élèves. La famille, je viens d'en parler un peu, avec les 2 types de socialisation. Le quartier, c'est là où tu apprends ce que tu n'apprends nulle part. tout ce qui a rapport avec le sexe, tout ce qui a rapport avec les tabous, etc., etc. Mais les jeux également. Il y a pas que ça. Le jeu, je pense que jouer dans un quartier, ça nous a permis, jouer au football, jouer au rugby, jouer à la toupie, etc. Et c'était une sorte de maternelle pour nous, où nous apprenions à être habiles des mains et des pieds. Chose maintenant qu'on apprend à la maternelle, donc pas écrire, mais juste, voilà, le Lego, faire ceci, etc. Oui. Nous, on le faisait avec des choses relativement élémentaires, la bille, la toupie, on était très habiles. Très, très habiles. Donc, le quartier, c'est les jeux. Le quartier, c'est un peu tout ce qui est tabou. C'est là, c'est pas ton père qui va t'apprendre à nommer les organes sexuels, etc., ni la mère, ni l'instituteur. Et donc, il y avait les jeux. Il y avait un autre, le quartier, je sais pas, parce que je vois un peu les autres pays. Je vais pas citer les pays pour ne pas oublier d'autres, mais il y a pas mal de films occidentaux, arabes, sur le quartier. Et je ne retrouve pas mon quartier. Je ne le retrouve pas, parce que c'est déjà, il y a des limites symboliques. Il y a une maison, et là, le gars, il peut être ton voisin, mais il appartient à l'autre quartier. C'est comme des États, hein, à la limite. Il y a le foot, les équipes de foot, qui créent un peu ces limites, un peu. Il y a d'autres, mais je pense, le quartier, l'autre chose que j'ai apprise au quartier, c'est ce qu'on appelle les alliances. parce qu'il y a, c'est pas des clans au sens des grands quartiers, hein, c'est pas des clans, c'est pas des gangs, mais bon, il y a des alliances un peu éphémères, selon les jeux, ça peut durer un mois, ça peut durer 3 mois, on connaît que les 3-4 gars là, ils sont toujours dans la même équipe. On constituait des associations pour les jeux de billes, parce qu'il y a des groupes, moi et quelqu'un et l'autre, etc. Donc, j'avais un associé pendant, je sais pas, 6 mois ou 7 mois. Il y avait ces manières de lier et délier des alliances qu'on apprend. On avait 10 ans. Bon, maintenant, je dis alliance, etc. Je suis en train un peu de raisonner, mais à l'époque, c'était vécu de façon très très naïve. Mais on savait qui est notre complice, qui est notre, on va dire, ennemi, adversaire, etc. Il y avait d'autres mots déjà. C'est pas la peine d'aller dans le vocabulaire parce qu'il est trop trop riche. Trop trop riche, on peut pas pour dire voilà, tu n'es plus mon ami. Il y a des gestes ne peuvent satisfaire tes besoins intellectuels. Tu es saturé. Il faut chercher ailleurs.
Fais quoi à ce moment-là?
À 16 ans, bon, tu peux pas rester au quartier en train de raconter des blagues, de parler du foot, etc. Ça devient ennuyeux. Bon, on peut toujours continuer de le faire, mais ne faire que ça devient ennuyeux parce que bon, tu es maintenant au lycée, donc tu as appris l'anglais, et donc il te faut un autre contexte, voilà, qui... Et c'était la maison de jeunesse.
Une question.
Oui.
Est-ce que dans cet espace du quartier, oui, est-ce qu'il y avait des filles?
C'est la question je sais pas que je l'ai évité. Il y avait des filles. Bien sûr, c'est mes sœurs, les sœurs de mes voisins, etc. Donc, et ils jouaient ensemble. Ils avaient leur jeu à elles. Et c'était des jeux de filles où il y avait pas de course. Oui. Ils ne couraient pas. Ils ne jouaient pas au foot. Et donc, c'est les jeux de filles qu'on retrouve un peu dans les films, hein, dans le film occidental avec les trucs, les élastiques, etc. Donc, non, il y avait pas de mixité. On peut à la limite parler avec une voisine, mais bon, mais pas de mixité.
Pas de mixité.
Non, 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 non. Non. On se connaissait, bonjour, etc. Mais ça se limite à ça. Et bonjour quand on avait 14 ans, 15 ans, mais avant. S'en foutait. Bonjour, c'était pas dans notre vocabulaire.
Et après, est-ce qu'on élargit le cercle ou est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on va dans d'autres espaces ou est-ce qu'on élargit l'espace?
On élargit le cercle. Bon, il y a dans ma disposition, dans mes dispositions, connaître quelqu'un, être proche de quelqu'un jusqu'à l'âge de 16 ans, ça, il doit être du quartier. Rien. Le premier ami que j'ai eu en 1969, on préparait ensemble, et c'était bizarre pour moi. C'était avant également. C'était 68. Et c'était bizarre que quelqu'un qui habite à 5-6 kilomètres soit un ami pour moi. C'est-à-dire, la proximité du quartier était le seul lien qui a une, pas une légitimité, mais qui a une réalité. Par la suite, oui, grâce à l'école, mais par la suite, j'ai rencontré Mehdi, donc, au lycée, et puis on est parti, je suis parti dans son quartier, on a joué ensemble dans le quartier. J'étais allé retourner dans mon quartier, on va dire, où j'ai grandi, mon quartier d'enfance. Là également, je suis resté 3-4 ans. Mais ça, c'est des biographies individuelles.
Oui, c'est
le quartier, c'est le quartier. Il y a un espace qui t'est imposé. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Par la suite, ça, c'est des espaces. Enfin, des espaces où le lien avec, d'abord, un copain de lycée ou un copain de collège. Ça, c'est l'ouverture. Pour les 3 quartiers que j'ai nommés tout à l'heure. Donc, Haïl Mohammadi, Sidi Atman et d'autres. Et par la suite, le plus important pour moi, c'est ce que j'ai commencé à exposer tout à l'heure, c'est la maison de jeunesse. Il y a, dans chaque quartier, en gros, il y a une maison de jeunesse. Il y a une qui est très proche de moi, mais j'ai préféré un peu aller plus loin. Mais bon, mais c'est à 20 minutes de marche de chez moi, donc. Et maison de jeunesse qui n'était pas loin non plus du lycée, une quinzaine de minutes de marche. Et la maison de jeunesse, là, il y a mixité, donc il y a les filles qui avaient notre âge, donc on parlait, etc. On apprenait quelques jeux, ça dépend des préférences de chacun de nous. Moi, c'était les échecs. Pour la première fois, je vais apprendre à jouer les échecs. Le ping-pong. Il y avait une petite bibliothèque où je commençais à lire Guevara, des choses comme ça, où j'ai lu des livres de Sadr Jalal Adam, Nardati Bad Lazima, donc l'autocritique après la défaite de 1967. Et donc, c'est un espace où il y a le jeu, où il y a le quartier, parce que c'est inscrit dans un quartier, Vouchendouf populaire, donc les habitants du quartier, pas tous, mais bon, ceux qui ont un certain niveau scolaire. Et là, j'ai appris le théâtre également, j'ai appris pas mal de choses. Et donc, c'est là où Hassan Rachir est sorti des trois espaces, un peu, on va dire, de la socialisation primaire, oui, de la famille. Même le quartier, je peux l'associer à la socialisation primaire, parce que c'est un espace qui était imposé. La socialisation secondaire, un peu avec l'école. Et là, c'est un autre type de socialisation qui correspond à un niveau intellectuel. Bon, c'est l'adolescent qui a 16 ans, 17 ans, qui commence à dire non, qui commence à réfléchir sur le régime, à critiquer le régime politique, etc., entre nous. Et donc, c'était un espace où il y a de la discussion, mais il y a également des blagues, où il y a le vocabulaire du quartier, etc., etc. Donc, c'était pas non plus une zaouïa où il y a que l'intellectuel. Donc, voilà. Bon, par la suite, si tu veux que je parle du ciné-club, très rapidement, parce que c'est venu, c'est venu.
On peut revenir après l'altérité scolaire, mais
non. Non, c'est pas grave. Ouais. Non, on peut revenir à la scolaire et puis parler du ciné-club après.
Philippe, jusqu'au bac, un peu
Alors, parfait. Ça, c'est la maison de jeunesse, elle correspond un peu au lycée. Donc c'est 1970-1974. Et vraiment, ça correspond. Donc j'étais en quatrième année, et puis quatrième année, l'anglais, j'étais en même temps à la maison de jeunesse. Alors sur le lycée, c'est la partie la plus sombre, hein, de ma vie scolaire, parce que on était beaucoup plus dans la cour, en train de scander des slogans, en train de faire des grèves, etc., etc., pendant 2 ans. 70, c'était relativement calme, mais 71, 72, 73, pendant 2 ans, c'était assez agité. C'était agité. Donc, mon niveau de français chutait. Mais vraiment chutait. Et puis, bon, l'anglais, oui, bon, j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'étais fier d'apprendre l'anglais, bon. Très, très ouvert sur la langue. J'ai profité d'un voyage en Angleterre, j'avais 19 ans. J'étais allé là-bas pendant 3 mois. Petite aventure. Calculée, bien sûr, comme toujours. Et donc, j'ai appris l'anglais, et ça m'a permis de faire ce voyage. On peut parler des voyages par la suite, parce que c'est également un autre espace d'intimité pour moi. Parce que je voyageais seul. Oui. J'ai toujours voyagé seul à 19 ans, 20 ans, 21 ans. Jusqu'à je sais pas, 78, 77. Alors le lycée, c'était la période de ce qu'on appelle au Maroc les années de plomb. Donc la peur, les islamistes commençaient à émerger. On commence à les voir dans la cour du lycée.
C'est quelle année, ça?
Ça, c'est 72-73. 1972-73. Donc, on commence les frères musulmans à se battre physiquement, verbalement, avec les marxistes ou les marxistes-léninistes, etc. Et donc, c'était vraiment une autre manière d'être, c'est ça, une socialisation secondaire un peu violente, n'est pas structurée. J'étais dans le syndicat national des lycéens, j'ai assisté à deux réunions. J'ai vu que c'était de la rigolade. À cet âge-là, 17 ans. Nous étions une quarantaine d'élèves. Bon, alors, nous savions que la police est là, donc il est bien informé, etc. Mais 40, c'est beaucoup. Et donc, j'ai assisté à deux réunions, et puis, par la suite, j'ai vu que ça rimait à rien. Donc, j'ai participé à deux, dans le même cadre, à deux manifestations. Il y avait les marxistes-léninistes à l'époque, donc ils organisaient des manifestations à l'improviste. C'est-à-dire, bon, 2 heures avant, 3 heures avant, tu connais que le 23, ceci, 20 février, il y aura manifestation, mais rien sur le lieu, rien sur le temps. Donc 2 heures ou 3 heures avant, on nous dit, bon, c'est... Ça, j'ai participé à deux, mais j'étais pas convaincu. Par ces dispositions, cette manière un peu de dire non, de façon relativement... Comment dire... Pas anarchique, parce que même l'anarchie, il y a un ordre derrière. Même une pensée anarchique, il y a un ordre, il y a des postulats. C'était de l'improvisation, c'était des genoux, voilà. Moi, j'ai... Et depuis, pour ce genre de culture, j'avais toujours un pied dedans et un pied à l'extérieur. Toujours. Ça me permettait de réfléchir, de ne pas être dedans à 100%, de ne pas m'aveugler, de ne pas être dans le troupeau, parce que je détestais être le troupeau. J'ai dit, je voyageais seul, donc toujours ma tranquillité, le livre, mon transistor, et puis je réfléchis un peu.
Et les livres, c'était des lectures plutôt marxistes,
quand même. Les lectures, j'ai commencé, pas uniquement moi, j'ai commencé avec d'autres copains à flirter. Et vraiment, c'est le mot exact, c'est flirter avec la littérature marxiste. C'est-à-dire, Georges Politzer, le livre faisait, je sais pas, 120 pages, 130 pages, bon, on lisait un peu l'introduction et puis on parcourait, etc. Avec notre français de l'époque. Mais je lisais beaucoup plus en arabe. Je lisais beaucoup plus en arabe, les Syriens de l'époque. J'ai parlé de Sadr Jalalad, Taïb Tizini, un peu, Boueli Yassine, Tarut Muharram, un peu. Nawal Sadawi et d'autres. Donc, il y avait un petit marché et le livre circulait. Comme ça. Donc, moi, je donnais le livre de Nawal Sadawi, j'empruntais l'autre, etc. Donc, il y avait ce type de lecture qui était dans ma biographie une rupture avec ce qu'on appelait à l'époque la culture générale. Taqaf al-Am. C'est l'arabie. Le prototype, c'est l'arabie, c'est-à-dire un peu de tout. Un peu de tout, un peu de physique, un peu de l'histoire, un peu de la géographie, un peu de la politique, un peu, etc. Et puis, tu peux meubler une discussion et tu peux dire à Habib, est-ce que tu connais Al-Tarif? Oui, je connais pas. Ah, si tu connais pas, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation totale. Et donc, j'étais jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai gardé un agenda que j'ai montré dans les films dont je t'ai parlé, un agenda de 1970 où j'inscrivais un peu ça. Celui qui a inventé le télégraphe, la guérilla, c'est quoi la guérilla, des choses comme ça. C'est quoi la guérilla? Et puis à chaque fois, quand je rencontre dans l'Arabie ou autre, je rencontre le Bahamid, c'est quoi la mer morte? Des choses comme ça, de l'information. Culture générale, c'est-à-dire, tu es cultivé, c'est tu as emmagasiné le maximum d'informations dans ta tête. C'est ça, être cultivé. Et par la suite, être cultivé, c'est pouvoir interpréter ton entourage politique, familial, parler de la sexualité, parler de la politique, avoir un avis sur la religion, etc., etc. Et c'était vraiment une rupture, bon, qui n'était pas non plus...
Bien sûr.
Voilà. Voilà, c'était vraiment... C'est une rupture, mais sur le plan chronologique, ça a duré quand même. Ça a duré une année et demie, 2 ans, quelque chose comme ça. 70 jusqu'à 72. L'agenda, c'était 1970. D'accord. Donc, 72, j'ai commencé à lire Jalalad, mais d'autres. Donc, il y avait pour ma génération, je parle beaucoup de l'ère du temps, et l'ère du temps, il est difficile à décrire. L'ère du temps. Quelle est l'ère du temps des années 68 à Paris? Ou l'ère du temps des années 68, 70 en Tunisie, ou de n'importe quel pays. Et l'air du temps, pour nous jeunes de l'époque, c'était de pouvoir dire non à la religion, à la politique, de façon très naïve et trop caricaturale. Mais bon, mais c'était l'air du temps. C'était le non. Dire non. De façon naïve, oui. Mais dire non, ça te permet de réfléchir, quel que soit le nom. Ne pas rester dans la socialisation de l'école, du quartier, de la famille, même si mon père était relativement un opposant, comme ça, un opposant né. Voilà, il n'aimait pas le régime, il n'aimait ni Marocain, ni Arabe, devant la télévision, en train de dialoguer, de discuter, de critiquer, etc. Bon, la télévision s'est venue très tard, mais bon. Et donc, il y avait, c'est très important dans l'âge d'un adolescent de dire, il y avait au moins deux options. Peu importe les options. Peu importe le contenu. De dire, bon, il y a au moins deux options. Dire oui et dire non. Peu importe le contenu du non, même si c'est naïf. Ça permet d'aller de l'avant par la suite. De construire ce non, de le dépasser, de l'améliorer, etc.
Et donc, ça se termine quand même par un bac.
Ah oui, heureusement, sinon je serais pas là devant toi.
C'est un bac de quoi?
C'était un bac lettres moderne, et un bac lettres moderne, bon, ça veut dire que c'est les matières les plus importantes, c'est la philosophie, et j'étais très content de découvrir la philosophie à la fin, en terminale. Et c'était l'histoire géo, ce qui était également une ouverture sur le monde, etc. L'arabe, bien sûr, les lettres arabes, une ouverture sur la littérature arabe, essentiellement contemporaine, égyptienne notamment, parce qu'on est... Voilà, je n'arrive pas à comprendre, parce que quand même, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des Soudanais, etc. Bon, bref, beaucoup d'Égyptiens, que des Égyptiens. C'est malheureux. Alors, et puis, il y avait l'anglais. Et moi, l'anglais, c'était... Comme j'ai fait ce petit voyage, donc je suis revenu. Quand on reste trois mois en Angleterre, bon, il y a les expressions, il y a le vocabulaire, etc. Je suis très fort en anglais. J'allais même faire anglais. J'ai fait Sciences Po. On est à la fac maintenant.
Deux petites marches arrière.
Non, c'est pas grave.
Une sur le Cineclub.
D'accord. Alors, le Cineclub, c'est également l'air du temps. Le Cineclub, c'est l'air du temps. Je suis resté au Ciné-Club depuis 1975 jusqu'à 1982. Avec la même cohorte. Mohamed Touzi, Mohamed Mehdi, Saad Chraibi et d'autres amis. 75, j'étais uniquement adhérent. Et je commence à dire, bon, il y a ces espaces-là. Donc, j'ai quitté la maison de jeunesse pour le Ciné-Club. Donc je faisais plus les deux. Donc Ciné-Club, j'étais adhérent. Je regardais les films, j'écoutais la discussion. J'ai jamais intervenu. 75, l'année suivante, un festival à Meknès, festival de cinéma arabe, si ma mémoire est bonne. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait Nourdine Saïd, un grand monsieur du cinéma au Maroc, qui vient de décéder il y a une année ou plus d'une année, mais il y avait plusieurs cinéastes. Il y avait les cahiers de cinéma. Les grands du cahier de cinéma, Serge Toubiana, je ne me rappelle plus de tout, de Toubiana, je ne me rappelle plus des noms maintenant, mais ça va revenir, mais Serge Toubiana, et il y avait le cinéaste libanais de Kafar Qassem, Alouia, Burhan Alouia, il y avait Sidney Khouna, c'est pas Sidney, Sénégalais, il est décédé, Sidney Khouna, quelque chose comme ça. Oui, c'est en tout cas Sidney Khouna. Et donc il y avait, je me rappelle pas de tous les noms, mais il y avait là, Jeunot, 20 ans, en train d'écouter un peu ces grands, en train de parler. Et là j'ai fait ma première intervention française en public. C'était, pour moi, c'était vraiment vaincre. Pour nous, lire le marxisme, ou lire un livre marxiste, c'est au moins pouvoir sauver la face lorsqu'il y a une petite discussion entre les marxistes. Lorsqu'il y a comme ça, un festival. Oui. Juste sauver la face, ne pas rester idiot, et puis, faut pas se taire non plus, bon. Oui. J'étais pas bavard, mais faut... Et donc, j'ai piqué, je venais de lire un livre de, d'Engels sur socialisme utopique et socialisme comme scientifique. Là, il y avait une critique de l'histoire, l'histoire en termes d'événements, des choses comme ça. Donc, et puis l'histoire dialectique, l'histoire en termes de classe sociale. Et j'ai piqué ce passage pour critiquer un cinéaste du cinéma arabe. J'ai oublié son nom, mais c'est dans le livre, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Un grand cinéaste du cinéma arabe, mais il a commencé à juste 1900 ceci, 1900 cela, Messer Studio, Messer 1937, etc. Donc il a commencé à nous faire un peu un récit des événements, des institutions, des films, des courants, etc. Et moi, je l'ai piqué comme ça. Donc, j'ai toujours, j'ai mes notes. Hein. J'ai gardé mes notes pour lui dire, bon, voilà, ta conception de l'histoire, elle est dépassée. Bah, sans les classes sociales, etc., représentation de la bourgeoisie, des choses comme ça. Donc, et c'était la première fois où je vais intervenir en français et dans une agora assez costaud. Mieux encore, donc Serge Danet, Toubiana, ce sont, parce que j'étais derrière eux, ils ont fait un petit sourire comme ça, donc courage. Un marxiste fraîchement converti, et là, etc. Et j'étais très content, j'étais très fier. Être fier, ça vous donne, ça vous booste également, ça vous donne un peu d'énergie pour aller de l'avant, pour dire bon. Et donc voilà, le ciné-club, c'était au début, dans cette ère du temps, de ces années, marxiste, militant, très lâche, hein, c'est vraiment, c'était pas trop carré, parce qu'il y avait d'autres ciné-clubs qui étaient carrés, et qui nous qualifiaient de petits bourgeois. Ouais. Donc nous, on était soft un peu, donc. Mais à partir de 78, 79, donc on a commencé à critiquer cette conception léniniste du savoir qui vient du haut, des intellectuels. Nous, les animateurs, on va diffuser le savoir militant, etc. On a commencé à être modeste, à dire on est là pour l'échange, il n'y a rien à diffuser. L'animateur n'a pas d'autorité, c'est un point de vue comme un autre. Et puis le public, il n'y a pas les fameuses relassates, on va par la suite conclure par quelque chose, voilà, de militant. Pas de conclusion, on va discuter, l'animateur va présenter quelque chose, vous avez également le droit d'avoir un point de vue sur le film. On a commencé à parler de la subjectivité de l'animateur, chose qui n'existe pas pour le marxiste. Tu n'existes pas. Si tu es marxiste, tu es traversé par quelque chose. Toi, tu n'existes pas. Il y a un vocabulaire, tu dois le répéter, et basta. Donc, c'est quoi la subjectivité? C'est ça, c'est petit bourgeois. Hein. C'est de la bourgeoisie. Et on a commencé à parler de la lecture plurielle. Et ça, c'est très important dans une atmosphère où il y avait une seule voix, une voix unique, la voix du militant qui sait tout. Avec l'arrogance du militant que tu en as rencontré. Hein. L'arrogance du militant qui sait tout, voilà, qui critique tout. Et donc on a commencé ensemble, hein, c'était pas vraiment... Là, c'était vraiment... C'était ensemble, c'était dans l'interaction. C'était pas Hassan Rachir qui sortait. C'était vraiment une bonne partie des copains du Ciné Club, et c'était une sortie collective, un exit collectif. L'entrée était bon, chacun est entré comme il pouvait, mais l'exit était un exit collectif, et c'était une grande crise à l'époque. Une grande crise. Pourquoi discuter la technique, le montage chez Eisenstein? Il y a d'autres choses à discuter chez Eisenstein que le montage. Mais lui, il discute le montage. Bon, qu'est-ce que tu veux? c'est déjà lui, il discute le montage. Il ne discute pas uniquement Potemkin, la révolution de 1905, etc. C'est que ça a un intérêt. Et donc, quel est le rapport entre le montage, la forme et le contenu? Donc, on a développé encore de façon très superficielle, il faut le dire, très superficielle. Mais nous avons ouvert plusieurs vannes. Et ça, c'est très important dans la carrière de quelqu'un. La vanne du cinéaste, Sacha est devenu cinéaste. Nous, on a commencé à s'intéresser à l'interprétation, à l'image, au sens, et ainsi de suite. Ce qui était, je pense pas forcer la chose pour dire, c'était un pan vers les sciences sociales.
Il y avait aussi la partie narration.
Oui, on discutait, pas en tant que juriste, pas en tant que militant, mais on avait un discours qui n'a rien à voir ni avec la fac, ni avec le militantisme. Donc on commençait à lire Roland Barthes, on commençait à lire le jargon, ça va être le signifiant, le signifié, ce genre, là, un peu de linguistique, un peu de sémiologie, c'est encore très rudimentaire, mais c'était par rapport à notre âge, par rapport à l'environnement intellectuel ambiant qui était très indigent, peut-être qu'il est encore. C'était, nous avons ouvert des vannes et chacun de nous est parti sur une vanne ou deux vannes qui l'intéressaient. Et moi, c'était l'interprétation. Vraiment, c'était comment interpréter des choses. Ce qui est resté en tant qu'anthropologue, il est resté. Je travaille avec ça. Je travaille uniquement avec ça. Donc voilà, c'était deux étapes qui correspondaient également à la biographie de pas mal de copains, hein, en dehors du ciné-club. Donc, à un moment, on dit, bon, ce militantisme, ce marxisme, cette manière de comprendre le marxisme, etc., ne mène pas à grand-chose. Et puis, bon, c'est trop carré, c'est un vocabulaire très limité, des postulats très limités, on ronronne, on ronronne. Et puis, bon, il y a le plaisir d'écouter quelque chose qui te plaît. Mais à un moment, c'est plus du plaisir. C'est pas l'animateur qui est là et puis l'autre, enfin le public qui bouge de la tête, qui dit « Yannick, à chaos, c'est ça, vraiment bien dit. Croyez-moi, c'est, à un moment il y avait une fille qui a pleuré, une adhérente qui a pleuré. Il a pleuré, il a commencé vraiment à pleurer et à dire mais maintenant qu'est-ce qu'on fait, je comprends plus rien, etc. Ils attendaient un messie, donc les gens voulaient un messie, et ils voulaient un guide, ils voulaient un Mahdi.
Et la fille a pleuré parce que le messie n'est pas arrivé.
Oui, bah, parce que il était perturbé, il savait pas. Oui. Nous on disait nous aussi, on sait pas. On tâtonne avec vous, et puis bon, on lit un peu plus que vous, mais bon, mais c'est tout, hein. Je peux pas vous imposer, dire, bon, voilà la lecture, voilà le sens vrai du film. Parce que c'était un peu ça, à l'époque. Le film, il y a un sens vrai, extérieur, à vous, même au réalisateur, et puis il est là, et donc il faudra le déchiffrer, il faudra le dénicher. Et on a dépassé ça, donc c'est resté entre 78, 79, on était mi-figue, mi-raisin, donc on était, between and betwixt, t'es entre les deux. Mais à partir de 80, c'était la crise. D'accord. 80, j'ai commencé mon terrain, j'ai commencé ma recherche, etc.
Il y a quelqu'un qui avait écrit rien de particulier, mais juste voyager, s'y rencontrer. C'était un voyageur.
Oui.
Si j'ai bien compris. C'était un voyageur avec un sac à dos ou un autre type de voyage?
Avec un sac à dos.
Avec un sac à dos.
Ah, oui, oui.
L'autostop?
Non, jamais.
Non.
Une fois, je l'ai fait une fois ou deux fois, mais c'était pas mon style.
D'accord. Alors, c'est pas le style de voyage.
Non, c'est pas le style. Je l'ai fait deux fois ou trois fois maximum. Ouais. Non. J'avais mon billet aller-retour. J'ai dit aventure calculée. mon billet aller-retour. C'était en Angleterre, 1919. Et là, je voilà un peu un jeune. Qui n'arrive plus à respirer en famille, quartier, à bien respirer, je veux dire. Bien sûr, la famille est toujours là.
Bien sûr.
Je l'aimais bien. Mais il y avait une dimension que je cherchais. Et c'est, le voyage répondait à ça. Il y avait l'adolescence, les filles, etc. Tout ce qu'un adolescent pouvait attendre à l'époque de l'Occident, etc. Donc, ça, je le cache pas, mais c'est pas vraiment le plus important. Pour l'histoire, hein. Oui. Pas pour l'époque. Pas pour l'époque. Et donc, je suis parti comme un blédard. Avec deux sacoches. Parce qu'il y avait rien. Il y avait un sac à dos, il faudra l'acheter là-bas. Oui. Donc, avec deux blédards, je me rappelle bien de ma mère qui m'a donné deux sacs de gâteaux. Que j'ai emmené avec moi. Et puis, c'était deux sacs. les deux sacs, comme ça. Bon, après, bien sûr, j'ai acheté un sac à dos orange, les sacs à dos orange de l'époque, hein, qui étaient très connus à Londres, et j'ai voyagé avec ce sac à dos par la suite, donc pendant une dizaine d'années minimum. Le voyage s'est rencontré, les voyages, c'est l'imprévu, tu ne sais pas, c'est pourquoi j'aimais voyager seul. Je cherchais de la compagnie de temps à autre. Il faudra pas non plus dire que j'étais asocial. Je cherchais de... Mais c'est une compagnie qui va durer, je sais pas, 2 heures, 3 heures, une journée, avec un Algérien avec 2 Algériens à Tunis, ça a duré 5 jours, donc on a voyagé ensemble, Hirk Louadi, etc. C'est venu après, c'est juste 75, 2 ans après. Donc l'Angleterre, c'était intéressant d'abord pour dire, tu peux compter sur toi. Tu peux t'organiser. 150 dirhams. J'avais 150 dirhams. Mon père, il m'a offert son salaire de l'époque pour acheter le billet. C'était autour de 500 dirhams, quelque chose comme ça. Une carte rail et 150 dirhams dans la poche. Et le clou de l'histoire, c'est que je suis parti une semaine avant. J'aurais pu partir 3 jours. Et arrivé à Londres, non, il fallait voir Paris, même Tanger. Oui. Je suis resté une nuit à Tanger, dans une maison de, une auberge de jeunes. J'ai zappé Madrid. Je suis resté à Paris, 4 jours. 2 jours dans un hôtel, 2 jours dans la rue. Un métro, des choses comme ça. Et c'était formateur, parce que, tu devais d'abord te débrouiller pour 19 ans, c'est rien à l'époque. Maintenant, bon, on peut dire, bon, je sais pas si c'est rien à l'époque, peu importe. Donc, il fallait se débrouiller. Les gares, je les découvre. Austerlitz, c'est beaucoup. Le truc là, Chamartin à Madrid, etc. C'est beaucoup. Donc, il y a une autre culture de l'espace, une culture de l'aventure qui s'installe. Donc je suis resté dans ce... C'était des farming camp, ou camp farming. On travaillait 5 jours, c'était dans un... J'ai la confiture du monsieur, c'est Wilkin. C'est un grand espace, c'est à 60 kilomètres au sud de Londres. Il avait de grandes propriétés, fabriquait de la confiture. Et il avait les cerises, toutes les cerises, strawberries, blackberries, tous les berries, tout ce qui se termine avec berries, il l'avait. Et nous, on travaillait la journée, soit à la tâche, à ce moment-là, donc ça dépend de toi, donc tu as 6 baskets, 5 baskets, 7 baskets, c'était, je me rappelle plus de pounds, la basket, etc. Moi, mon maximum, c'était 3. Il y avait d'autres qui pouvaient aller jusqu'à 7. Mais moi, mon maximum, c'était 7. C'était 3. Donc, on avait une petite somme pour payer, c'était 6 pounds, payer la nourriture et le logement. 6 pounds à l'époque. Et il nous restait quand même, petite chose, comme ça. Avec quelques visites, j'ai visité Cambridge à l'époque. Je savais même pas ce que c'était Cambridge. Je vais découvrir Cambridge après le voyage, donc un bus qui nous ramène, Cambridge, etc. Londres, on a visité Londres. Donc le voyage, c'est la rencontre. Mais je pense à Evans Pritchard, un anthropologue britannique qui a travaillé en Afrique dans les années 40. En gros, un monument de l'anthropologie, pas uniquement britannique, mais international. On lui a posé la question, dites-nous pourquoi tu es devenu, la motivation, pourquoi tu es devenu anthropologue. Et il leur a dit, j'aime voyager. Et j'ai gardé ça, a posteriori, j'ai dit, bon, peut-être que faire de l'anthropologie, faire du terrain, je pouvais pas faire du terrain toute ma vie, mais c'était peut-être une motivation. Aller à la rencontre des gens, j'aurais pu être juriste ici et puis rester à la bibliothèque. Je l'ai pas fait. Donc j'ai appris ça, j'ai appris à rencontrer les gens, à discuter avec les gens. Tu peux pas savoir comment c'est formateur. Chacun de nous est passé par des moments pareils. Voilà, tu découvres les gens, tu dois parler avec les gens, etc. En anglais, en plus, Donc voilà ce que j'ai gardé. Maintenant, c'était l'Angleterre et l'Espagne. À un moment, je comptais voyager en Allemagne. Puis les questions de visa, etc. Donc remplir les trucs. Donc j'ai renoncé et je me suis dit, tourne, il y a à droite, il y a quelque chose, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, il y a un autre qui s'appelle la Tunisie. Donc vas-y. Et j'ai pris mon sac à dos. 1 000 francs à l'époque français dans la poche. Je suis parti pendant un mois.
Algérie-Tunisie. Il y avait quelque chose de particulièrement différent, quelque chose de marquant, je veux dire, dans ces deux voyages vers le nord et vers l'est.
Il y a. Moi, je peux utiliser mon livre, Le proche et le lointain. Et je dirais, il y a beaucoup de proximité entre le Maroc et l'Oranie. Moins en allant vers Annaba, moins en allant vers Tunisie, mais c'est toujours proche. Oui. Mais c'est juste des degrés, des variations. Mais à Oran, j'étais stupéfait. J'ai écarquillé mes yeux, je me dis, est-ce que je suis dans un pays étranger? C'est pas possible. Mais bon, Oran, c'est proche de Oujda, etc. Mais Alger, moins. Mais bon, bien sûr, le Darija ou l'arabe dialectal maghrébin, il a, on se comprend facilement. Ouais. J'étais pas pour dire les choses très 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 rapidement. Il y avait pas ce choc culturel. Il n'y avait même pas de choc culturel. Il y avait une grande proximité. Ce qui me choquait, c'est la proximité.
Oui. C'est tellement.
Tellement proche. Voilà, tu parles avec les gens, l'hôtel, etc. Au resto, les amis. Tu n'as pas. Non.
On est à la maison.
Ah oui, j'étais très content. J'étais très content parce que c'est une autre manière de voyager. Une autre manière de voyager.
Alors, on arrive à un moment. Hassan al-Shir, il a son bac en poche. Il est passé par le quartier, bien sûr, au début, la maison de
jeunesse,
Cineclub, le voyage, et il est tout prêt à entrer à l'université.
L'université, c'était parallèle. C'était parallèle également au voyage, mais des voyages un peu ultérieurs. Alors, l'université, j'allais opter pour l'anglais. Mais l'anglais n'était enseigné, enfin, le cursus en anglais n'était possible qu'à Rabat. À Rabat, il fallait payer, etc. Et la bourse ne le permettait pas. Et puis mon père venait de partir à la retraite. Moi, je suis rentré à l'université. Mon père, 75, est parti à la retraite. La retraite, c'est minable. C'était minable. Donc, il fallait que j'aide un peu la famille. Et j'ai opté pour sciences politiques. Vraiment, j'ai opté pour sciences politiques à cause de ça. Par la suite, je l'ai pas regretté, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du droit, beaucoup plus du droit public que sciences politiques. Mais c'était une formation pour l'époque, une formation assez sérieuse. Bien sûr, il y avait quelques critiques à l'époque. La majorité des profs dictaient un peu, donc il y avait très peu d'explications. Il y avait quelques profs, bien sûr, qui expliquaient. Nous, on prenait des notes, mais dans la majorité des cas, c'était de la dictée. Il y avait pas des passerelles entre ce que les profs nous enseignaient et notre vie de tous les jours. C'était très rare. Le droit, c'est la vie de tous les jours. C'est pas uniquement des textes. Le droit constitutionnel, c'est la vie de tous les jours, etc. Donc il y avait pas cette pédagogie qui existe un peu maintenant, hein, parce qu'on est resté dans ce format. Il y a un cours ex cathedra, et puis le prof dicte, et de temps à autre, il ouvre une parenthèse pour expliquer ceci ou expliquer cela, ou commenter ceci ou commenter cela. Donc, nous étions assez frustrés Et je commençais à lire un peu les livres, comme je disais, un peu marxistes, etc. Et l'un des livres qui m'a arrêté à l'époque, c'était un livre d'Yves Lacoste sur Ibn Khaldoun.
Oui.
Il m'a arrêté, c'était en deuxième année de la fac. Il y avait, nous avions un prof des idées politiques qui était relativement ouvert sur la littérature anglo-saxonne, etc. Et je lui ai proposé de faire un exposé sur Ibn Khaldoun. Lui, c'était un maître assistant pour le cours d'histoire des idées politiques. Il était très content. Et je l'ai fait. Et à l'époque, je me dis, bon, ça, il est, l'approche est relativement marxiste. Mais avec cette approche marxiste, il traverse des événements. Il traverse des périodes de l'histoire du Maghreb, pas uniquement du Maroc. À travers Ibn Khaldoun, il répond à la question, pourquoi le tiers-monde, c'est sous-développé, mais pas le feu d'artifice, etc., des concepts comme ça. Et donc, je l'ai fait, donc, j'étais entre le droit et faire autre chose que le droit. Donc, c'était un peu une occasion pour moi. Mes copains étaient très mécontents et même l'un d'eux nous a dit, bah, il nous faut l'enseignement du Marzen, l'enseignement de l'État. C'est-à-dire, moi, je suis sorti un peu du programme, donc.
Oui.
Bon. Il l'a dit un peu en catimini, sans que je sache qui, mais. Et donc, la fac, c'était à côté, c'était le temps du ciné-club. 75-82. Vraiment, la fac, c'est le ciné-club. 75-82. Donc, on était beaucoup plus, on lisait beaucoup plus pour le ciné-club que pour la fac. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et notre français, je suppose, en tout cas, je parle pour moi-même, mon français s'est amélioré grâce au ciné-club, grâce aux lectures au ciné-club. Et que j'ai investi à la fac, par la suite. Parce que mon français à la fac, c'était très, le pincette, hein. je le tenais avec les pincettes. Donc ça a duré, donc la licence, c'était relativement banal. Un cursus de droit public, très très banal. On passait les examens, et puis bon. Et l'ouverture, c'est vraiment le troisième cycle. Le pont vers la recherche et vers les sciences sociales, c'était le troisième cycle. Le troisième cycle, nous avions 2 ans après la licence, puis un mémoire de DES pendant 2 ans, on le rédige pendant 2 ans, on soutient, et puis le doctorat, la thèse d'État, le doctorat d'État. Alors, le troisième cycle, c'était vraiment la période charnière pour nous, pas uniquement moi, mais également pour Mohamed Mahdi et Mohamed Touzi, la période charnière entre l'étudiant et le jeune chercheur en herbe. Il n'y avait pas de projet de devenir chercheur. Parce que ça, c'est très important. Maintenant, les jeunes, lorsqu'ils s'inscrivent au master, soit ils disent, bon, je vais arrêter le master, avoir le diplôme et aller ailleurs, ou je vais être chercheur. Il se pose cette question.
Oui.
Nous, il n'y avait pas cette question parce que la faculté produisait des fonctionnaires. La fonction principale des facultés, pas uniquement ici, des facultés, c'est de produire des fonctionnaires pour l'État. Les juges, les avocats, les chefs de service, les commissaires, et j'en passe. Chercheurs, produire des chercheurs, c'était pas la vocation de la fac. Nous, on était un peu la première génération de chercheurs dans notre faculté. Il y avait des chercheurs à la faculté des lettres, depuis longtemps, Abdelal Haroui et d'autres. Mais ça, c'est l'histoire. Les historiens, les géographes, il y avait une tradition de recherche, de terrain, d'archives, et ainsi de suite. Nous, c'était vraiment, tu as ta licence, tu passes un concours, tu es fonctionnaire quelque part, et par la suite, lorsque le secteur privé va se développer, c'est les banques, c'est les assurances, etc. C'était aussi simple que ça, aussi carré que ça. Qu'est-ce qui nous a poussé, en tout cas, qu'est-ce qui m'a poussé, alors que je viens de dire, mon père était parti à la retraite, on n'était pas dans le... sur le plan financier, c'était très très dur, hein, c'était vraiment très très dur. Mais pourquoi choisir, pourquoi prolonger? Parce que normalement, on dit dans la sociologie de l'éducation, les études un peu sur la mobilité sociale, les enfants des familles modestes, ils ont un parcours universitaire court. Parce qu'ils doivent travailler, ils doivent aller travailler. Alors, il y a... Je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce que c'est cette flamme, cette estime de devenir voilà, le docteur, etc. J'en sais rien.
Il y avait peut-être aussi le côté révolte, un peu rébellion, un peu...
Tu as raison parce que tu me rappelles quelque chose que j'ai dit lorsque l'un des professeurs nous a dit « Lorsque vous allez travailler, moi j'ai crié, on ne veut pas travailler. » Peut-être. Peut-être que le travail me faisait peur et donc je retardais un peu cette échéance. Peu importe.
Il y avait une bourse.
Il y avait une bourse assez pour l'époque assez substantielle. C'était 700 dirhams par mois. Mon père à l'époque touchait 800 dirhams.
C'était presque.
Mais c'était pas suffisant parce que comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de frères. J'étais l'aîné. Alors, j'enseignais dans le secteur privé. C'était à l'époque, j'enseignais le lundi, le mardi, le mercredi matin.
Le droit.
Le français. Non, j'enseignais le français. J'ai appris le français en enseignant le français. C'est la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de l'enseigner et de la massacrer devant les élèves. Sincèrement, j'ai appris parce que c'est quoi une langue? C'est juste la pratiquer. Au Maghreb, dans notre entourage, tu ne parles en français que dans un contexte qui le permet, académique, formel, institutionnel. Là, tu parles français. Dans un signe club, oui, on peut parler français. Mais comme ça, avec les collègues, en famille, je te dis pas, etc. Bref, je faisais ça. Donc troisième cycle, c'était la période charnière. Il y avait Bruno Etienne à l'époque qui nous enseignait tradition, modernité, un cours sur le Maghreb, sur les institutions politiques au Maghreb, et les méthodes des sciences sociales. Ça nous a, en tout cas, ça m'a ouvert un peu les yeux sur d'autres domaines disciplinaires autres que le droit et autres que l'histoire des idées politiques. Par la suite, nous avons rencontré, bien sûr, Paul Pascon, qui nous a fait aimer également le terrain. Et la pratique du terrain.
Donc ça, c'était pendant...
C'est toujours 1980.
Et donc,
79-80.
C'était après le master ou avant le master?
Non, c'était la première année du master, 79-80. La première année du master, 79-80. La deuxième année du master, nous sommes allés avec Paul Pascon dans une petite enquête dans le sud.
Et c'était la première rencontre avec lui?
Non, bien avant. Bien avant, mais c'est la première longue rencontre qui a duré une semaine et puis par la suite une quinzaine, une dizaine de jours, avec toujours la même cohorte, Mohamed Tozi et Mohamed Mehdi et mon épouse que tu viens de rencontrer. Et donc nous étions dans une phase où on se disait, en tout cas je me disais, oui il y a de la recherche, il y a un profil pour le Pascon, il est chercheur. Parce qu'il faut toujours avoir un modèle, quelqu'un, parce que un enseignant universitaire, on l'a, mais bon, un enseignant universitaire, c'est un enseignant universitaire, il n'est pas chercheur. Même Bruno Etienne, pour nous, c'est un enseignant universitaire beaucoup plus qu'un chercheur, même s'il écrivait des livres à l'époque. Même s'il écrivait des articles, des livres, etc. Pour nous, c'était pas encore clair. Bref, le troisième cycle, c'était cette période charnière où je vais décider de faire en mémoire de DES, on rapporte toujours avec le séminaire de Bruno Etienne, modernisation et traditionnalisation de trois tribus marocaines. Je vais faire du terrain, pas loin de Rabat, à 60 km au nord de Rabat. Un terrain d'appoint, c'était environ une vingtaine de jours. Donc le mémoire, c'était beaucoup plus basé sur de la documentation de seconde main, les archives, les articles, et les livres de ceux qui ont écrit sur la région. Sociologue, mais avec un pied pour justifier un peu, pour justifier le diplôme.
Oui.
Je ne pouvais pas faire un travail sociologique. Et donc je suis resté entre sociologie, histoire, histoire des institutions et droit. Parce qu'il y avait le droit, je travaillais sur la commune c'est le droit administratif, etc. Donc c'était pas bien calculé, mais bon, le hasard a fait que j'étais pas loin du juriste que j'étais. C'est après le mémoire de DES que je fais rompre avec la science juridique telle qu'elle est enseignée, parce que par la suite, je vais écrire sur le droit, etc., etc., mais d'une autre manière.
Oui.
Donc voilà, la période du troisième cycle, il n'était pas formatrice au sens que nous faisons maintenant. C'est-à-dire, les étudiants, on les prépare au terrain, on leur explique ce que c'est qu'un questionnaire, ce que c'est que le terrain, ce que c'est que l'observation, ce que c'est qu'un entretien, comment discuter avec les informateurs. Nous, comme j'aime bien le dire et le redire, c'est « swim or die ». Même l'idée de réfléchir sur le terrain était impensable pour nous. C'est quoi le terrain? Le terrain, bon, il faut aller avec quelques petites questions, rencontrer des gens, leur poser des questions, prendre des notes et les intégrer dans... C'était un peu ça. Par la suite, on va découvrir que c'est beaucoup plus complexe.
À partir de quel moment tu vas te rendre compte que le terrain, ce n'est pas si facile que ça?
À 83. 82, 83. Lorsque je vais préparer ma thèse de doctorat.
D'accord.
Là, oui, vas-y.
Tu as une difficulté particulière qui t'a réveillé, que tu as eu un choc, quelque chose?
Non, il n'y avait pas de choc, c'était assez progressif. J'ai terminé ma thèse, j'étais vite recruté, ce qui était une chance. Mm-hmm. Le doyen Mohamed Bennani, à qui je rends toujours hommage, qui, en dépit de... pas l'originalité, mais du caractère insolite de notre mémoire. Et insolite par rapport à l'histoire de la fac. Parce qu'à un moment, nos copains nous disaient, tu vas pas travailler avec ce genre de... Tu vas pas être recruté avec ce genre de mémoire. Parce que tu n'es pas... C'est pas un mémoire de droit. Je lui rends hommage parce que lui, c'est grâce à lui que j'étais recruté à la fac.
Recruté, mais la thèse n'était pas encore finie.
Pas encore. J'étais recruté... grâce à mon mémoire de DES, maître assistant.
D'accord.
Avec un mémoire de DES, tu peux intégrer la faculté avec le grade de maître assistant.
D'accord. Et c'était le mémoire
sur la modernisation.
Sur la modernisation.
Modernisation de trois tribus de Moules. Modernisation, c'est-à-dire la période précoloniale, et puis la période coloniale, toutes les institutions introduites par l'administration coloniale, et puis pour cette indépendance, que devient le droit introduit par Coutumier, etc., introduit par le pouvoir colonial. C'était une sorte de chronologie relativement simple, mais où je me posais la question de l'histoire des institutions, comment les institutions ont changé, des institutions traditionnelles précoloniales à coloniales, et puis comment également le Maroc a rompu avec l'héritage colonial.
D'accord. Et donc, la thèse, donc on se lance dans une thèse, il y a un terrain, la thèse porte sur quoi?
Alors, 82, j'étais recruté, et j'avais l'idée de continuer sur les Zemmours, avec ce préjugé que le mémoire des deux S3 tribus, la thèse de doctorat... Une vingtaine de tribus. C'est-à-dire, c'est l'extension. La thèse, c'est tout simplement rajouter plusieurs chapitres. Bon, j'ai échappé rapidement à ça. Et puis, j'ai commencé à faire du terrain avec Abdallah Moudi et Mohamed Mehdi dans le Haut Atlas. 1983.
D'accord.
C'est là où j'ai découvert le Haut Atlas. J'allais faire les deux terrains, mais par la suite, j'ai choisi le Haut Atlas et donc j'ai abandonné mes Zemmours. Les tribus Zemmours, je les ai abandonnées. Ce que j'ai gardé des Zemmour, c'est que j'étais fasciné par le sacrifice ou les repas sacrificiels qui étaient accomplis pour consolider les relations intertribales. Il y avait ce qu'on appelle la tata, qui est un pacte entre des tribus, une alliance entre des tribus qui permettait aux tribus nomades transhumantes, il n'y avait pas de la sécurité, le marzen n'était pas là, etc. Le pouvoir central était ce qu'il est, pour tous les états traditionnels, y compris l'Occident, donc il n'y avait pas la gendarmerie partout, l'armée partout, etc. Donc il y avait des institutions qui permettaient la sécurité des troupeaux et des personnes. Et parmi ces pactes intertribaux, c'est la tata. Donc c'est deux tribus qui se rencontrent, qui mangent ensemble. Parfois ils allaitent même ils changent un peu de chaque femme allaite les nourrissons de l'autre, etc. C'est ce lien. Et puis bon, il y a des conséquences, à la fois mystiques, à la fois juridiques, etc. Donc il y a des sanctions surnaturelles, il y a des sanctions humaines, etc. Mais l'essentiel, c'est de respecter le territoire de l'autre tribu et que l'autre tribu respecte tes troupeaux lorsqu'ils sont de passage. Et tu es un garant. Donc dans cette histoire de la tata, il y a les deux tribus, il y a deux tas de babouches, les babouches droites, et on fait un tirage au sort, et puis ceux qui tirés au sort sont liés par la tata. Donc je connais que X, si jamais j'ai un petit problème, c'est lui mon garant. Si je suis attaqué, si je suis insulté, donc c'est lui mon garant. J'ai travaillé sur ce type d'institution qui favorisait la sécurité en dehors du gouvernement central. Donc, comment les gens se débrouillaient eux-mêmes, les tribus, se débrouillaient elles-mêmes pour assurer la sécurité. Et c'était un repas sacrificiel. Parce qu'il y avait le couscous, on mangeait ensemble, etc. Et on sait dans les traditions nord-africaines et peut-être ailleurs, le repas, c'est un lien. Quand on mange, c'est pas si on n'a rien mangé. Donc, c'est un lien. Il y avait un sacrifice qui était dur, qu'on appelait targiba, parce que l'argoum, on coupait les jarrets de l'animal pour lui donner cette position de suppliant, de l'ar. Donc la tribu vaincue sacrifie un cheval, c'est un peu terrible, on lui coupe la jarre, et puis l'autre tribu est obligée d'arrêter la guerre, de suspendre les hostilités. Et c'était le sacrifice, et à l'époque, il y avait René Girard, son travail sur le sacrifice, violence et sacré. Il y avait un petit groupe ici, donc on discutait entre nous. Et j'ai dit, je travaille sur ça. Sacrifice. J'ai abandonné ça, mais le sacrifice est resté, parce que j'ai travaillé sur un repas qui ressemble un peu à la tata, mais qui a d'autres fonctions, qu'on appelle le marouf, qui existe également en Algérie. Et en Tunisie, si ma mémoire est bonne, on appelle ça Zelda.
Oui, Zelda.
Zelda qui n'est pas le buffet, parce qu'au Maroc, Zelda c'est le walima. Donc on appelle Zelda parce que j'ai vu un documentaire sur Zelda en Tunisie. Et donc c'est juste un village ou plusieurs villages qui de temps à autre se rencontrent, sacrifient ensemble, mangent ensemble, et puis bon. Pour recréer encore le lien, etc. Et donc c'était l'objet de ma thèse. Et là également, le préjugé, c'est travailler sur tous les rituels. Et par la suite, l'entonnoir commence à se rétrécir. Et puis, bon, j'ai travaillé uniquement sur le marouf. Il était dirigé par Mohamed Cherkaoui, un grand sociologue marocain, et par Abdallah Hammoudi, un anthropologue.
Et c'était bien, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'était bien ici,
oui,
au Maroc.
Oui, tout ça au Maroc.
Tu n'as jamais étudié à l'étranger?
Non. Non.
Tu es un fils de l'université?
Je suis made in Morocco.
Made in Morocco?
Non, mais made in Morocco avec toutes les nuances que les frontières académiques et linguistiques sont virtuels.
Oui, bien sûr.
Donc, j'ai, J'ai lu les étrangers, j'ai lu la littérature étrangère, américaine, anglo-saxonne, française, même italienne, pour faire, non, italienne également, etc. Donc, pour moi, quand je dis Made in Morocco, oui, sur le plan académique, oui. Sur le plan institutionnel, oui. Mais à part ça, bon, les cahiers de cinéma, Roland Barthes, la sémiologie et tout ça, bon. Sur le sacrifice, Ivan Spritchard et d'autres, donc Émile Turquet et d'autres, sur le rituel. Donc non, à chaque fois on me pose cette question de Made in Morocco, bon, je l'accepte également, bien sûr, parce qu'institutionnellement c'est vrai.
Oui.
Mais ma biographie va au-delà de ça. Ma biographie intellectuelle va au-delà de ça. 83, je suis resté un mois avec une bourse à Paris pour préparer ma thèse. Deux ans de lecture uniquement, deux ans de lecture parce que j'étais pas anthropologue, donc il fallait rattraper le retard, il fallait préparer la thèse, rattraper le retard, etc. Donc, c'était deux ans de lecture pour préparer cette proposition de recherche, le guide d'entretien, etc. Avant de partir. Donc, 82, 84, c'est uniquement des lectures.
Sans inscription.
Si, inscription en thèse, bien sûr. Inscription en thèse avec les repas sacrificiels. Le titre, c'était le repas sacrificiel.
Et c'était soutenu quand?
96. Je n'ai pas tardé, c'est 4 ans. Deux ans de préparation, une année et quart de terrain, et une année et quart pour la rédaction, mais le quart, entre le terrain et la rédaction, ça s'est imbriqué. Ça s'est imbriqué. Ça chevauche, exactement.
En parlant des frontières qui sont un peu virtuelles, enfin, qui n'existent pas intellectuellement, c'est important quand même de dire que l'université marocaine a produit,
oui.
entre guillemets,
oui.
des chercheurs,
ah, bien
des universitaires,
bien
dont
sûr.
Certains ont brillé, et
bien sûr. Ah, bien sûr.
Aller chercher d'autres chemins.
Ah, bien sûr.
Il n'y avait pas que les universités occidentales.
Ah oui, non, parfaitement. Je suis redevable à mon université, donc... même si j'ai quitté pour des raisons personnelles, mais bon, ma formation de juriste m'aurait permis d'aller plus loin.
Ouais.
Donc, avec toutes les réserves que j'ai dit tout à l'heure sur la pédagogie de l'époque, mais bon, c'est la pédagogie de l'époque. Non, je l'ai écrit, c'est pas la première fois que je le dis, une formation. Il y a quelque chose qui reste dans les dispositions, dans mes dispositions en tant que juriste. Cette rigueur de la des définitions. Le fait de dire, ça, il faut pas. Vous savez, en anthropologie, en géographie, on peut rester flou un peu. En droit, parce que ça a des conséquences.
Oui.
Ça a des conséquences sur l'argent, sur la politique, sur l'administration. On peut pas rester dans le flou. Et donc, le juriste, il est. On peut dire il est carré, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire précis. Ça, j'ai appris ça et d'autres choses. Donc, la rigueur dans l'écriture, etc. Je suis redevable. Maintenant, il y a l'universitaire et il y a le para-universitaire.
Oui.
Le ciné-club, c'est mon para-universitaire. Et moi, j'ai dit à chaque fois, et je le redis pour mes collègues, il faudra créer, même au sein de l'université, des annexes. Ciné-club, club de lecture, théâtre amateur, tout ce qu'on veut. Même dans le sein de l'université, comme ça se fait dans d'autres campus. Il y a des groupes de musique, il y a des groupes de lecteurs, etc. Et donc le para-universitaire, l'environnement universitaire est très important également. Nous, on avait un peu la chance d'avoir le ciné-club comme environnement universitaire. Je m'imagine mal sans le ciné-club. Je n'arrive pas à imaginer quelle aurait été ma carrière sans le ciné-club. Sincèrement, je l'imagine très mal.
Le cinéma, ça t'aurait pas tenté?
Non.
Non.
Non, je suis casanier. J'aime écrire. Le cinéaste, c'est un peu difficile. Non, c'est un métier difficile, hein. Donc, non, ça m'a jamais, non. Ça m'a jamais, puis c'est un métier grégaire.
Oui.
C'est un métier grégaire. Moi, je suis maître seul, maîtriser mes choses, etc. Maintenant, vous savez, un film, c'est combien d'un? Le générique, il dure quand même. Moi, ma préface pour remercier les gens, il y a, je sais pas, maximum, il y a 8 personnes. Non, ça m'aurait tout ce qui est un peu grégaire comme ça. Je respecte d'ailleurs les gens qui travaillent comme ça parce que c'est une gestion des ressources humaines qui est énorme. Non, je pouvais pas.
Parmi les entre guillemets, je me permets d'utiliser influence, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme.
Non,
en regardant un peu ce que tu as fait, puis en écoutant que les interviews
oui.
Réalisées et diffusées sur YouTube et d'autres choses, enfin aussi des lectures. Je ne suis pas un bon connaisseur de Khaldoun, je ne peux pas le prétendre. Et à un moment où je me suis dit, mais ce type, Hassan Rachid, est-ce qu'il n'est pas fondamentalement khaldounien?
Non, je ne pense pas.
Non.
Sincèrement, non.
Non,
c'est pas. C'est juste une question de fréquentation.
Oui.
Une question de fréquentation. Je l'ai toujours lu en tant que lecteur, mais jamais en tant que chercheur.
Oui.
Donc, ça, je le dis avec d'autres Marocains. Je l'ai écrit. Je les respectais, je les lisais, mais je ne sens pas une influence ou une orientation. On peut appeler ça comme on veut. Non. Je ne pense pas. Je l'ai enseigné. J'ai lu ce qu'il a écrit sur la magie, etc. Mais un lecteur. Et il m'est très difficile de dire qu'il m'a influencé en tant que chercheur. En tant que chercheur, il y a d'autres chercheurs, pas forcément. Ah, ben, ils sont nombreux, je peux pas les citer tous.
Non, mais.
Si je me limite au début.
Ouais.
Juste au début pour être sélectif et, parce que par la suite, 40 ans de carrière, bon. Quand même, mais au début, j'étais fasciné par tous ceux qui ont travaillé sur le rituel et le mythe, comme c'était ma thèse, donc Claude Lévi-Strauss.
Oui, bien sûr.
M'a influencé, même si j'ai pris un peu mes distances par rapport à lui, mais il reste... il m'a influencé. Victor Turner, un anthropologue peut-être écossais, mais qui est parti à Chicago, écossais, britannique. Victor Turner, Clifford Geertz par la suite. Evans Pritchard.
D'accord.
Oh là, ils sont nombreux. Là, tu es en train de me tirer la langue là. Evans Pritchard, Edmond Leach. Ça c'est le début. Edmond Leach, il m'a accompagné. Moi, je suis, et j'essaie un peu de dire ça à mes étudiants. Ma bibliographie n'est jamais longue, mais je creuse les auteurs que je choisis. Je les fréquente. Je lis, je relis. Les autres papillonnés, il y a des bibliographies comme ça, 300 livres, etc.
Ouais.
C'est impensable. Bon, j'ai également lu 300, mais bon, ces 300 ne peuvent pas figurer dans ma bibliographie, c'est impossible. Donc, Claude Lévi-Strauss, Evans Pritchard, Victor Turner, Edmond Leach, ça, c'est les anthropologues qui m'ont marqué. Je peux oublier. Émile Durkheim, bien sûr, Weber, Max Weber. Je peux oublier. Mais non, ça, pour le début, c'est les six où il y a un top 10, comme on dit. il y a un top 10.
Quand on arrive.
Mais il y a Paul Pascon ici, bien sûr. Il y a Paul Pascon. Pour le Maroc, il y a Paul Pascon.
Oui, Paul Pascon, mais pour maintenant, tout de suite, on y va. Paul Pascon. Quelle était la nature de la rencontre, le contact, Yari, ce stage
C'était une enquête sur l'immigration. Qui était menée par une université hollandaise, par deux enseignants hollandais, géographie humaine,
ouais.
Les deux. Et Paul Pascon était là pour autre chose, il était là pour son travail sur le Tazerwal, tant qu'il n'était pas impliqué dans... Mais il nous a accompagnés quand même. Alors, Paul Pascon, c'est le type de transmission qui se fait sans l'intention de transmettre. Il n'est pas là pour te dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Je suis en train de parler, je suis en train de vous raconter mes enquêtes, je suis en train de vous dire des choses. Vous piquez ce que vous voulez. Donc c'est une sorte d'accompagnement. Et ça, j'ai admiré ce type ce type d'apprentissage informel, si on veut. Et je l'ai fait avec mes étudiants par la suite. Sortir avec eux. Pas uniquement les bancs, le tableau, l'entretien, ceci. Juste, il vient avec un problème. Nous sommes sur le terrain. Et ce problème, on le discute. Et ça, c'est une pédagogie, une autre manière. Ça, je l'ai apprise avec Paul Pascon. En tout cas, il me l'a suggéré parce que il t'a pas dit voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Je l'ai fait. Et puis, la modestie. Humilité intellectuelle. On était des mômes, hein. 28 ans, c'est pas beaucoup. Pour un chercheur, c'est beaucoup pour beaucoup de choses, mais pour un chercheur, vous êtes au début. Et donc, je me rappelle, ça, je le répète, et je le répète également aujourd'hui. Avant d'arriver à Tazrwelt, qui est à une centaine de kilomètres au sud d'Agadir, c'était un ancien royaume qui était un peu, entre guillemets, le concurrent de la dynastie Alaouite, mais au XVIIe siècle.
Oui.
Donc, jusqu'au XIXe siècle, c'était encore un royaume, etc., avec. Et donc, découvrir déjà que l'histoire du Maroc n'est pas linéaire, donc il y a comme des poches par-ci, par-là, etc. C'était pas mal. Mais le plus important, c'est que avant d'arriver à Tazrwelt, qui est un peu le siège d'un grand sultan marocain, saint marocain, Sidi Ahmed Moussa, je me rappelle plus quel siècle, peut-être 15e siècle, peut-être avant, je me rappelle plus. On s'arrête, et puis il nous fait un petit topo sur la région, sur les lignages, sur l'histoire de la tribu, etc. Une générosité que j'ai jamais expérimentée. Et par la suite, ce type d'exemple va se répéter plusieurs fois. Malheureusement, il est parti un peu très tôt, donc il est parti, je sais pas, peut-être 3 ans après cette aventure. Il est décédé.
Est-ce que on est vers la fin de la thèse? Est-ce que le Hassan Rachir, engagé politiquement, était encore militant? Est-ce qu'il y a eu des phases importantes dans cet itinéraire politique?
Oui, je pense pas. Il y a une conversion de cette flamme militante vers d'autres motivations.
Oui.
Travailler avec les paysans, travailler avec les nomades, consacrer le temps, respecter la religiosité populaire à un moment où il n'y a que l'islam savant, etc. Ces dispositions-là, cette flamme-là, je l'ai gardée. Le contenu n'est plus le même. Le contenu, c'est pas les ouvriers, etc., etc., parce que je n'ai pas travaillé sur le monde industriel. Ça aurait été sur le monde industriel et urbain, j'aurais fait la même chose. Donc, travailler avec les ouvriers. Cette flamme existe, mais il a pris d'autres couleurs ou d'autres contenus. Parce que ce n'est pas facile d'aller travailler avec des paysans, des sédentaires, alors que il y a 1000 choses comme ça, confortables à faire à l'époque. Donc, je pense qu'il y a ça pendant la thèse. Par la suite, il y a autre chose. Par la suite, ma casquette d'intellectuel, je vais l'utiliser pour d'autres causes, si tu veux, si on peut parler de causes.
Il y a en termes de contribution à la production des connaissances, donc ça commence avec les mémoires de ce qu'on appellerait aujourd'hui le master.
Exact.
Hein, exact. Et après la thèse.
Exact.
Et après les autres étapes ou les autres choix de travaux de recherche ou de questionnement, ou est-ce que quelque chose qu'on peut classer en 3-4 axes principaux, est-ce que...
Alors, il y a le terrain que je vais continuer après ma thèse. Donc, il y a un deuxième